Un évangéliste des temps passés a dit ceci en parlant de ce chant, de ce cantique spécifiquement. Il a dit: les hommes le chantent, les garçons le sifflent, sa mélodie, et les mamans bercent leurs enfants en chantant ce cantique. Ce qui était très vrai pendant une époque, plus précisément. Mais son auteur, Johnson Ottman, il est né dans une famille chrétienne duquel le père était connu à son époque pour l'être l'un des meilleurs chanteurs de la ville. Qui n'était pas juste pour les cantiques, mais il était presque, on va dire, une voix d'opéra. Johnson n'a jamais eu le talent vocal de son père, mais il a grandi dans cette atmosphère et il a été grandement influencé par la musique ainsi que la volonté de contribuer à la cause de Christ, spécifiquement à travers la musique. Et en grandissant, il a arrêté de travailler dans le business familial et est parti pour faire ses études de théologie. Après ses études, il n'avait pas de difficulté à trouver des églises qui avaient besoin d'un pasteur. Et à l'âge de 36 ans, ayant toujours cette volonté à contribuer à l'œuvre de Christ par la musique, le Seigneur l'a aidé à se réaliser qu'il n'avait pas besoin d'avoir les mêmes dons et talents qu'avait son père, mais que le Seigneur lui avait donné d'autres capacités. Il trouva que le Seigneur lui avait donné un certain talent pour plus pour écrire les cantiques, les chants, que de les chanter. Même s'il chantait bien, mais pas au niveau de son père. Et donc très vite, il commençait à en écrire, cantique après cantique. Et en moyenne, il écrivait à peu près 200 cantiques par an. Il en arrivait à la fin de sa vie, en 1922, où il en avait écrit un minimum de 5000. C'est quand même assez conséquent. Et contrairement à d'autres que nous avons vus qui ont écrit beaucoup de chants et de cantiques, qui eux devaient aussi un peu le faire pour gagner leur vie à l'époque, les chants n'étaient pas un gain supplémentaire pour l'aider financièrement. C'était vraiment par amour pour la musique et par amour et cette volonté d'utiliser la musique pour témoigner et être une aide aux églises ainsi qu'un témoignage aux inconvertis. Il donnait ses chants gratuitement et quand, par exemple, une maison de presse insistait à ce qu'il lui paye quelque chose, il n'a jamais accepté un paiement au-dessus de 1 $ par chant. Et celui d'aujourd'hui est certainement l'un des plus connus qu'il a écrit. Et comme on peut l'imaginer, c'est un chant qui revient très souvent aux US quand on célèbre, comme c'est le cas de cette semaine, de la fête du Thanksgiving. C'est toujours le quatrième jeudi du mois de novembre. Et cette fête a été établie comme étant une fête nationale sous la présidence du président Abraham Lincoln, qui a dit qu'il voulait une journée nationale, et je cite, une journée nationale de reconnaissance et de louange envers notre Père qui réside au ciel pour ses bienfaits. Il dit, on doit avoir une fête qui revienne tous les ans, auquel qui est dédiée juste pour ce fait-là. Et voilà la vraie raison pourquoi les chrétiens aux US, spécifiquement, aiment cette fête. Et nous avons le témoignage d'un évangéliste, Jepsy Smith, qui en 1902 était en train de visiter une clinique pour enfants. Et comme il faisait beau, les enfants étaient dehors pour profiter des rayons de soleil, hein, comme on peut imaginer, et j'allais dire s'amuser un peu, mais pas beaucoup, parce que c'est une clinique, ils sont pas dans le meilleur état. Physique, mais cet évangéliste parla pendant un moment avec ses enfants, regroupés un peu sur la pelouse dehors. Et avant de partir, un des docteurs ou infirmiers, ça ne précise pas, s'adressa aux enfants et leur dit: voudriez-vous chanter quelque chose à Monsieur Smith avant qu'il ne parte? Et une fille dit: oui, assez rapidement. Et ce docteur ou cet infirmier dit: mais qu'aimerais-tu lui chanter? Et la réponse de la petite montra qu'elle avait déjà la chanson en tête parce qu'elle a répondu tout de suite, dans la foulée, Compte les bienfaits de Dieu. Ou dans notre cantique, comme voix de la tempête. Mais cet évangéliste était impressionné et béni aussi à la fois. Non par la qualité avec laquelle les enfants ont chanté le chant, mais par cette volonté sincère qu'il voya. Ses enfants chantaient ce cantique spécifiquement avec une joie d'un enfant. Ça ne va pas cacher, ça ne va pas faire semblant. comme nous adultes, n'est-ce pas? Ah, il faut que je donne une bonne apparence. C'était pas quelque chose de prévu, c'était spontané. Dit, est-ce que quelqu'un aimerait chanter? Et puis, ah ben moi, j'aimerais qu'on chante ceci. Ils étaient impressionnés de ce que ces enfants qui sont dans une clinique, qui ne sont pas bien dans leur santé, disent, moi, je veux chanter contre les bienfaits de Dieu. Et il a dit cet évangéliste continue en disant que depuis ce moment-là, il a insisté à vouloir toujours incorporer ce cantique dans toutes ses réunions où il est invité pour prêcher. Il demande, j'aimerais qu'on puisse chanter ce chant. Et si ce n'est pour aucune autre raison que pour l'aider lui à se rappeler que je n'ai pas de raison de ne pas être reconnaissant, de me rappeler que il me suffit d'arrêter ce que je fais et de commencer à compter les bienfaits de Dieu. Et ça va tout de suite changer ma façon de penser si j'étais en train de penser à dire pauvre de moi, rien ne m'arrive de bien, etc., etc. Alors regardons ensemble un peu notre texte principal pour ce matin. Je vous demande de tourner avec moi dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, on va lire juste deux ou trois versets ensemble et on va rester un peu dans ce texte pour voir qu'est-ce que la Bible dit sur cette idée de ce chant, de compter les bienfaits de Dieu, d'être reconnaissant pour qui il est autant que pour ce qu'il fait. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 19, dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » De tout votre cœur, spécifiquement, parle de ne absolument rien retenir. D'accord? C'est ouvrez les vannes, lâchez-vous. Louez le Seigneur de tout votre cœur, célébrant les louanges du Seigneur. Verset 20, rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Bon, ensuite, viennent les versets que beaucoup disent, ah non, pas celui-là, une femme, que chacun soit soumis à son mari, et puis enfant, obéissez à vos parents, puis oh non. Mais voyez que quand même, que tous ces versets, pour ce que la manière que la femme doit être envers son mari, de mari vers la femme et les enfants, etc., ça vient tout de suite après. Tu parles du fait qu'il parle, on doit s'entretenir par des psaumes, par des hymnes, par des louanges de reconnaissance. De dire, je n'ai aucune raison de ne pas être satisfait envers Dieu et avec Dieu. Et c'est intéressant. Si je suis satisfait, si je suis heureux, si je suis reconnaissant, ça va m'aider à me soumettre, à aimer, à obéir, etc., etc., etc. Alors, mais regardez également le contexte un peu plus large hein, de ce passage. Celui de chanter, de louer, d'être reconnaissant en toutes choses. Le verset premier de ce même chapitre, hein, chapitre 5, il commence ce chapitre en disant « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Waouh! Il y a deux choses qui sont énormes dans ces deux versets. Il dit « Devenez des imitateurs de Dieu. » Rien que cela, ça devrait me mettre à terre et dire « C'est impossible. » Et ensuite, il dit, marchez à l'exemple de Christ et imite au verset 2. Devenez des imitateurs et marchez à l'exemple de Christ. Et après, quand je lis tout le reste de ce chapitre, même la fin parce qu'il dit, pardon, je reviens au verset premier, il dit, devenez donc les imitateurs, ce donc relit le chapitre 4. Mais si je fais ça, on va relire tout Éphésiens. Parce que le début, le premier verset du chapitre 4, c'est je vous exhorte donc. Donc ça relit le chapitre 3. Et puis, on va lire tout le livre d'Éphésiens. Mais le chapitre 4 termine en parlant du Saint-Esprit, de ne pas attrister le Saint-Esprit. Il parle de comment on doit nous réagir, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ensuite, il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, etc. Et c'est en suivant tout cela, il dit, vous avez besoin du Saint-Esprit qui est en vous pour faire ce qui est juste, pour faire ce qui est bien, vous n'y arriverez pas de par vos propres forces. Devenez donc des imitateurs de Dieu. Marchez à l'exemple de Christ. Et remarquez que dans les deux cas, il ne dit pas, si vous y arrivez, ben, imitez Dieu. Si vous y arrivez, suivez l'exemple. Non, c'est un ordre. Il dit, on doit le faire et on doit l'être. En sachant qu'on ne peut pas le faire et l'être de par nous-mêmes, de par nos propres moyens, de par nos propres forces, mais en étant rempli du Saint-Esprit, en étant contrôlé par le Saint-Esprit, en nous assurant de ne pas attrister le Saint-Esprit, Dieu nous permettra d'être comme lui veut que nous soyons. Et c'est là toute la différence. On va, et je pourrais continuer à prendre le contexte, parlant des versets 9, 10 et 15 à 18, etc., pour le contexte immédiat de notre passage en Éphésiens, chapitre 5, versets 19 à 20. Mais j'ai déjà pris plus de temps que je voulais pour ces autres choses. Mais il nous vient enfin à ces versets où il nous dit, ce n'est pas un conseil. Ce n'est pas si vous êtes d'accord avec moi ou si vous en avez le temps ou si vous en avez, il ne dit même pas si vous en avez la capacité. Il dit entretenez-vous. Voilà ce que vous devez faire. C'est votre devoir de penser aux autres, pas juste à toi-même, mais entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. De rendre continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous voyez l'évidence qui est montrée dans ces versets, l'évidence du lien indéniable entre la louange, entre les cantiques et la reconnaissance. On ne peut pas voir l'un sans l'autre. L'un va affecter l'autre, et on ne devrait pas avoir l'un sans l'autre. Je ne devrais pas avoir ces cantiques sans la louange, sans la reconnaissance. Je ne peux pas avoir la reconnaissance sans avoir un cœur qui est rempli de louange non plus. Personnellement, je regarde à la reconnaissance dans la vie du chrétien comme étant, je veux dire, la base, la fondation même de notre obéissance. C'est ce qui vient avant même d'avoir une vie sainte. C'est ce qui vient même avant d'avoir une vie pure, irréprochable. C'est ce qui nous pousse à avoir un amour dans notre obéissance. Tout chrétien qui dit vouloir servir le Seigneur devra commencer avec un cœur rempli de reconnaissance d'abord. Pourquoi est-ce qu'il veut servir? Pourquoi est-ce qu'il veut obéir? Parce que Dieu dit, et je dois obéir. La vraie obéissance vient d'un cœur reconnaissant tout d'abord. Un chrétien qui se dit être reconnaissant et qui en même temps refuse de servir le Seigneur, de se soumettre à sa volonté, je suis désolé, c'est un menteur. Il ne peut pas être reconnaissant et volontairement désobéir. On ne peut pas avoir les deux. De reconnaître qu'il doit n'est pas la même chose que de faire. Je reconnais que je dois ne pas rouler à plus de 50 en ville, mais si je ne le fais pas, cette reconnaissance ne me sert à rien. Ayant vu le contexte et déjà un peu de ce que veut dire ce verset 20, j'aimerais qu'on regarde un peu plus de détails cette phrase que Dieu utilise, de verset 20, de « rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père ». Alors, qu'est-ce que c'est que la reconnaissance? Si on doit rendre continuellement grâce, qu'est-ce que c'est? Hein, parce que le mot en lui-même n'est pas difficile à comprendre, n'est-ce pas? D'être reconnaissant, de montrer de la gratitude, de ne pas être ingrat et réaliser que c'est une bénédiction et non quelque chose qui nous est dû, quelque chose qu'on mérite, quelque chose que j'ai fait et donc je dois recevoir en conséquence. Même le salut, ben surtout le salut, est donné par grâce. J'ai prié, oui. J'ai reconnu mes péchés, oui. J'ai accepté le salut, oui. Mais c'est une grâce. Je n'ai rien fait qui mérite un si grand cadeau. J'ai obéi, je me suis soumis. Mais c'est ce que ce mot, quand il dit « rendez continuellement grâce », de rendre grâce, c'est exactement ce que ça veut dire. C'est ce que nous disons quand on prie juste avant de manger, n'est-ce pas? On dit « on va rendre grâce pour la nourriture qu'on va prendre ». Ça veut dire qu'on va dire merci à Dieu pour ce repas qu'on va manger. Qu'on est reconnaissant et ne pas se plaindre. « Oh mais Il y a des oignons là-dedans. Oh, mais là, il y a des champignons dans celui-là. Puis de rendre grâce pour la nourriture, d'être reconnaissant du fait qu'on puisse manger et qu'on peut manger. Peu importe ce que c'est. Même peu importe la quantité. Merci Seigneur de ce que nous avons quelque chose. Puisque cette vérité vient tout de suite après, qui est liée avec les versets qui nous parlent, du verset 29, de nous entretenir par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant Dieu de tout notre cœur, les louanges du Seigneur, on peut en déduire que notre reconnaissance, la façon qu'on rend grâce et qu'on dise merci, se fera aussi par nos prières, mais aussi à travers nos chants, à travers nos hymnes, à travers nos paroles. Célébrant Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure, de tout notre cœur, les louanges du Seigneur. On l'a dit, on le répète, Dieu ne s'intéresse pas à avoir des prières de répétition et à moitié sincères. Il veut voir des cœurs qui soient réellement confiants en lui, soumis à lui, ouverts à lui. Je ne te cache rien. Je te dis exactement ce que je pense, ce que je ressens. Et là, je veux te dire merci. Merci Seigneur pour ceci. Merci pour cela. Merci pour qui tu es. Je ne mérite pas ces choses. Tu aurais pu ne pas me les donner et tu aurais eu raison. Merci. Et quand on le chante, comme on l'a fait ce matin, on a eu plusieurs chants où on a parlé de notre reconnaissance, où on a dit merci envers le Seigneur, on a déclaré ses bienfaits envers nous, qu'il voit qu'on n'est pas juste en train d'essayer de chanter la note juste, mais on est en train de dire des paroles qui sont sincères de notre cœur, qu'on pense réellement au fond de nous. Et quand on se parle entre nous et qu'on dit, oui, le Seigneur est bon, qu'il nous voit, dit, il est sincère parce que quand il est tout seul, il continue à le penser, il me le dit aussi en privé. Même l'homme inconverti, il est normal de voir l'intensité de la reconnaissance qui est étroitement liée avec la taille et l'importance du cadeau ou de l'action apportée envers cette personne. Si je donne à un homme un nouveau manteau, surtout là avec le froid qui commence à s'installer tout doucement, même si aujourd'hui il fait un peu plus doux, il va être reconnaissant. Mais si par exemple, je lui donne une voiture, sa reconnaissance, ce sera encore peut-être un peu plus grande. Ou s'il me dit, j'ai une dette énorme que je dois, et qu'on dise, bien, viens, on va te payer cette dette. Il sera encore une reconnaissance autre que celui à qui on a donné un manteau, n'est-ce pas? Ou encore la personne qui, le pompier, est entré dans cette maison en feu et qu'il l'a mis sur son dos pour le sortir, pour lui sauver la vie. Il aura encore une reconnaissance autre et différente. Même pour l'inconverti, ils comprennent que la taille de notre reconnaissance varie selon le bien qu'on nous a fait. Mais ça implique aussi que l'intensité de notre reconnaissance démontre à quel point on pense que le cadeau qu'on nous a fait est soit important ou pas trop envers nous. On me donne un cadeau énorme, on me dit, tiens, on va payer ta maison pour toi. Je dis, oh ouais, merci, sympa, merci, je t'enverrai une carte. Ça démontre que je valorise pas trop l'action qu'il a fait pour moi. Et alors, pour nous, en tant que chrétiens, quand on comprend tout ce que Dieu fait pour nous, et que lui, il voit, plutôt, je devrais demander, qu'est-ce qu'il voit comme reconnaissance de notre part? Ça, c'est tout ce que le prix de mon fils sur la croix vaut pour toi comme reconnaissance? Ça vaut pas plus comme reconnaissance de ta part? Que dit votre reconnaissance envers Dieu? Pas juste pour votre salut, mais depuis votre salut. Que dit votre temps de silence dans les moments où Dieu s'attend à entendre un cœur reconnaissant? Le louant, lui rendant grâce pour sa grâce. Que dit votre louange à Dieu? Parfois, nos plus grands actes de reconnaissance ne sont pas avec nos paroles, ne sont pas avec nos prières, ne sont pas avec nos chants. Ce sera dans nos actions, dans les choix que nous faisons dans notre vie. Quand Dieu voit notre obéissance, par exemple, malgré la douleur que nous ressentons, malgré la difficulté, il dit, je me dois d'obéir parce que je suis reconnaissant envers Dieu pour qui il est, pour ce qu'il fait pour moi. Quand Dieu voit notre volonté de l'obéir par amour, malgré les difficultés, malgré les déceptions, malgré nos émotions, malgré les incertitudes, malgré la moquerie, l'incompréhension des autres, il nous voit vouloir lui être obéissant. Il voit notre amour pour lui, notre foi en lui, notre obéissance, le tout entouré par un cœur réellement reconnaissant. Voilà la vraie louange. Voilà la vraie action de grâce. De faire des choses par coutume, par habitude, ça peut devenir assez facile. Mais Dieu ne s'intéresse pas aux gestes, il regarde au cœur. L'action de grâce qui n'est pas suivie par une obéissance volontaire n'est plus un acte qui apporte de la joie envers Dieu, mais c'est un acte qui va attrister Dieu. Il fait cela, mais pas par amour, pas par reconnaissance. Dieu n'a pas dit, si vous m'aimez, dites merci. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous êtes reconnaissant, choisissez de vous soumettre à ma volonté de m'obéir, est ce que Dieu me est en train de dire. De rendre grâce à Dieu est l'une des choses qui devraient être les plus faciles à faire. Et c'est pourtant peut-être l'un des endroits où le chrétien a le plus de mal à faire régulièrement. Ce qui nous amène au prochain point. Ce n'est pas seulement le fait de rendre grâce, il dit, mais vous aurez remarqué ce petit adverbe, continuellement, n'est-ce pas? Continuellement. Après tout, de rendre grâce, de dire merci, d'être reconnaissant de temps en temps, bah, c'est assez facile. De le faire quand on reçoit ce qu'on veut, c'est facile. De le faire quand on reçoit un cadeau ou une faveur imprévue, c'est facile. Ou du moins, ça devrait l'être. Mais d'être continuellement reconnaissant, ça, ce n'est pas aussi facile que ça. Parce qu'on sait ce qu'on vit continuellement. Notre reconnaissance, notre louange et notre volonté de lui apporter des chants, des hymnes pour l'adorer, lui dire merci, devrait être un sentiment et une volonté continuelle. Les circonstances, la santé, le poids des responsabilités, les imprévus qui veulent enlever notre joie ne devraient jamais, absolument jamais, enlever notre reconnaissance envers Dieu. De dire merci, même pendant et pas seulement après les difficultés, c'est déjà assez difficile. Mais en plus de le faire continuellement, c'est là où se trouve la vraie difficulté, mais c'est là également où se trouve la vraie sincérité. Ne pas se lasser de continuer à rendre grâce malgré les douleurs, malgré les déceptions, malgré la peine. De ne pas cesser de continuer à rendre grâce malgré l'incompréhension des autres. Parfois même des autres chrétiens. De continuellement rendre grâce malgré l'inconnu, de ne pas savoir comment Dieu va pourvoir, ou pourquoi Dieu a permis, et comment il va faire pour nous aider à nous en sortir, de ne pas attendre la solution, mais de déjà continuellement rendre grâce, de continuer quand même à avoir un cœur si rempli de reconnaissance, que ça nous pousse à obéir à la volonté de Dieu par amour pour lui et ne pas nous laisser distraire par nos émotions. Ça ne veut pas dire qu'on aura toujours un sourire sur notre visage. Ça ne veut pas dire qu'on aura toujours un chant sur nos lèvres. On a dit que notre reconnaissance ne se verra pas toujours à travers les paroles et les prières, mais elle se verra par notre foi en Dieu, notre amour pour Dieu et notre obéissance complète à sa volonté. Une reconnaissance continuelle, bah, la logique veut dire que ça veut automatiquement dire une obéissance continuelle. On l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas être reconnaissant et refuser d'obéir. C'est un mensonge. Alors si on est continuellement reconnaissant, on est continuellement obéissant, malgré les circonstances. Si je continue à être obéissant, ça implique que je continue à lui faire confiance aussi. Je ne manque pas de foi, je continue à me soumettre, comme on dit au chapitre 4, au Saint-Esprit. Je continue à pardonner, je continue à avoir compassion, je continue à être enseignable, je continue à être obéissant en toutes choses. Alors je peux vous poser la question, avez-vous l'habitude de continuellement rendre grâce? Ou est-ce que vous avez, comme pour beaucoup, seulement l'habitude de rendre grâce quand vous avez les bonnes choses? Parce que quand je lis cet adverbe continuellement, ça ne me dit pas seulement que je dois le faire matin, midi, soir, mais que je ne dois pas m'arrêter continuellement. Ça me dit également qu'importe où je suis dans ma vie, je me dois de rendre grâce, d'être obéissant dans ma jeunesse, hein, dans ma vie de jeune adulte, dans ma vie d'adulte ou dans mes vieux jours, peu importe, de continuellement, en tout temps, en toute chose, en train de rendre grâce à Dieu, d'être reconnaissant. Mais le fait est, vous savez comment est l'être humain? Le plus qu'on montre de la reconnaissance pour la même chose, le plus qu'on est tenté avec le temps de ne plus l'être. Le plus qu'on reçoit la même bénédiction encore et encore et encore, avec le temps, on va toujours commencer à prendre cette chose pour acquis. Je pense à l'exemple du peuple d'Israël. Rappelez-vous quand ils étaient libérés de l'esclavage en Égypte, et à cause de leur incrédulité, maintenant ils doivent errer dans le désert pendant 40 ans. Ils disent, mais pourquoi? On va mourir, on n'a rien à manger, etc. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il leur pourvoit de la manne. Une nourriture miraculeuse, ils n'ont pas besoin de planter, ils n'ont pas besoin d'aller la chercher, de la trouver. La Bible dit, il suffit de sortir de leur tente et de commencer à ramasser. On ne peut pas avoir plus facile. Et au début, qu'est-ce qu'on voit? Ils sont heureux, ils sont reconnaissants. Et plus tard, qu'est-ce qu'on voit? Oh, on n'a que de la manne à manger, on n'en peut plus. Si seulement on avait un peu de viande, si on avait des oignons comme on avait en Égypte, qu'est-ce qui a changé? La seule chose qui a changé, c'est le temps. Avec le temps, ils ont eu l'habitude. Au début, on peut imaginer, et la Bible le dit, d'ailleurs, il dit, ne ramassez pas plus que ce que vous avez besoin pour cette journée-là. Si vous essayez d'en garder pour le lendemain, ça va pourrir. Et il y en a beaucoup qui, ah non, non, ça fait longtemps, on ne sait pas ce qu'on va manger, ils en gardaient pour le lendemain, puis effectivement, c'était pourri. Il dit, ayez confiance en moi, je vous donnerai miraculeusement cette nourriture, cette manne, tous les jours, sans faille, seulement au sixième jour, vous en ramasserez deux fois pour le lendemain, etc. Ils avaient leur consigne. Les années passent, et ils ne ressortent plus de leur tente avec, je me demande si elle sera là. Non, ils s'attendent à ce que ce soit là. Ils ne ressortent plus de leur tente en disant, merci Seigneur de ce que tu as encore pourvu de la manne pour nous aujourd'hui. Et oh, encore de la manne. Nous avons ce même problème en nous, vous savez. Ce n'est pas juste le peuple d'Israël. Nous faisons exactement la même chose. Et c'est quand Dieu nous enlève cette chose, ah ben en fin de compte, oui, j'aurais dû être reconnaissant pour ce que j'avais. Et on doit faire attention de ne pas tomber dans ce même panneau. Nous faisons pareil. On reçoit si souvent les mêmes bienfaits de Dieu qu'on ne les reçoit plus comme avec reconnaissance. Pire, si Dieu nous refusait de nous donner ce qu'il nous donne déjà, on serait fâché. Comme s'il nous enlevait quelque chose qu'on méritait. Alors que ce n'est pas vrai. Si on veut rendre des louanges de reconnaissance continuellement, on doit continuellement reconnaître qu'on ne mérite pas la moindre bénédiction de Dieu. Qui suis-je, moi, pour dire que je mérite le moindre bienfait de lui? Quelle arrogance de ma part! Qui suis-je pour prétendre une telle chose? Qui suis-je pour prétendre que Dieu mérite de prêter attention à moi, encore moins pourvoir pour moi? Je suis le premier à dire que ce n'est pas facile de garder cet esprit de reconnaissance, de reconnaître qu'on ne mérite jamais rien. Mais la difficulté n'est jamais une excuse pour ne pas le faire. La difficulté ne devrait jamais nous pousser à abandonner, mais toujours nous pousser à plutôt dépendre sur Dieu pour réussir. Rappelez-vous du contexte et de l'importance donnée à être rempli, contrôlé et soumis au Saint-Esprit. Le fait est, il ne devrait jamais exister un moment dans ma vie où je ne suis plus ou pas reconnaissant envers Dieu. Tout comme je pense à Paul et Silas, malgré le fait d'être emprisonnés, hein, d'être certainement, vu que c'était la coutume, avant d'être emprisonnés, généralement, ils étaient battus de verges. Pas de lit, généralement un peu de foin par terre. Je suis désolé, mais le foin sur un dos battu, ça ne fait pas beaucoup de bien non plus. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Paul et Silas étaient en train de chanter les louanges au Seigneur. Ils n'étaient pas en train de prier, ben peut-être qu'ils l'ont fait aussi, Seigneur, délivre-nous. Il n'y a pas de mal à cela. Il n'y a rien qui dit qu'on n'a pas le droit d'apporter nos requêtes devant Dieu. Dieu lui-même nous dit qu'on doit le faire. Il dit, passez ce temps de louange par les chants, par des hymnes, par des prières, de reconnaissance, de louange envers Dieu en toutes choses. Et on les voit chanter à un point tel assez fort pour que les gardes puissent les entendre et être touchés par leur témoignage. Ce qui nous amène au dernier point, il dit de rendre grâce continuellement pour toutes choses. Pour toutes choses. Encore une autre difficulté pour nous, n'est-ce pas? J'ai l'impression que nous connaissons cette vérité, mais malgré ça, quand nous lisons ce verset, nous lisons, nous pensons comme si Dieu nous disait rendre grâce pour toutes les bonnes choses. C'est ce qui nous semble plus logique. Le fait est, notre nature charnelle ne voit pas comment ni pourquoi on devrait être reconnaissant pour ou dans les mauvais moments. Pourtant, si on regarde en arrière dans notre propre vie, si on prend le temps de regarder sans être influencé par nos émotions comme au moment où nous passions à travers des épreuves, on pourrait maintenant regarder en arrière et voir peut-être les bonnes choses qui en sont sorties. Les leçons que nous avons apprises, la façon que Dieu a utilisé cette expérience pour nous aider à grandir, à mûrir, à nous approcher de lui, à voir comment ce moment désagréable nous a aidés à avoir une communion plus proche avec Dieu, plus personnelle, que nous n'aurions pas eue sans cette expérience. Si on peut regarder en arrière et voir tout cela et qu'on puisse dire merci Seigneur, parce que sans cette expérience désagréable, ben, je n'aurais pas grandi, je n'aurais pas mûri comme j'aurais dû le faire, et je ne te verrais pas toi aujourd'hui de la même façon. Sans cette expérience, je n'aurais pas pu te voir agir et voir que la foi que j'ai placée en toi, elle a abouti, ce n'était pas en vain. Et c'est justement parce qu'on peut voir ces moments où nous avons placé notre foi en Dieu dans le passé qu'on se dit, aujourd'hui, je peux continuer à placer ma foi en Dieu. Je n'aurais, grâce à cette expérience désagréable dans le passé, je peux faire face aujourd'hui à cette autre expérience désagréable et savoir que tu es en contrôle. Si je peux regarder en arrière et dire merci pour ces moments-là, alors n'est-il pas logique que je devrais pouvoir regarder à mes circonstances présentes, même douloureuses, et de pouvoir dire merci avec les mêmes yeux de la foi, même alors que Dieu n'a pas encore répondu aux besoins. De dire merci Seigneur, parce que je sais que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Merci parce que je sais que tu ne vas pas m'abandonner. Tu ne l'as jamais fait, tu ne le feras jamais. Merci parce que je sais que tu n'es pas seulement suffisant, mais tu es plus que suffisant. Merci parce que je sais que je ne dois pas traverser cette épreuve tout seul et que je ne dois pas, tu ne t'attends pas, toi, à ce que je traverse cette épreuve de par mes propres forces. Merci parce que je n'ai pas besoin de voir la solution pour savoir que toi, Seigneur, tu es déjà en contrôle. Tu l'as prouvé à maintes fois dans mes difficultés passées, et tu n'as plus besoin de le prouver aujourd'hui parce que tu es le même hier, aujourd'hui et à jamais. Autant que la bonté de l'Éternel est infinie, autant notre reconnaissance devrait être sans fin. Pour toute chose, en tout temps, sans exception. Ne soyons pas comme le peuple d'Israël qui, à force de recevoir les mêmes bénédictions, allons de rendre gloire en vouloir plus. C'était leur problème. On ne demande pas ce que tu enlèves la manne, mais on veut la manne plus autre chose maintenant. De rendre grâce pour toute chose automatiquement implique que nous ne prenions rien comme acquis ou comme quelque chose qu'on mérite. Ce n'est pas parce que les autres ont cette chose que je mérite de l'avoir moi aussi. En Romains chapitre 1, verset 21 et la fin du verset 20, il nous dit, ils sont donc inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Il parle à des personnes, donc, qui ne sont pas ignorants. Ils ont connu Dieu. Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Vous voyez à quel point c'est important aux yeux de Dieu, au cœur de Dieu. Vous m'avez connu, donc vous savez qui je suis, vous savez ce que j'ai fait pour vous, et vous n'êtes toujours pas reconnaissant. Mais ils sont égarés dans leurs pensées, leurs cœurs sans intelligence ont été plongés dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Rendre grâce en toutes choses s'implique de ne pas prendre pour acquis les bonnes choses que Dieu nous donne ou permet, tout comme ça implique les choses que nous voyons comme mauvaises, mais que Dieu a quand même permis ou que Dieu nous a données. Vous savez, Dieu, contrairement à nous, ne se focalise pas sur le présent, sur la chose désagréable, mais Dieu voit le bien, la manière que lui veut utiliser cette expérience pour nous aider. Il voit le résultat, et ce résultat qui, plus tard, nous aide à regarder en arrière et de pouvoir dire merci. Parce que je peux maintenant voir de quelle manière tu as utilisé cette expérience désagréable pour m'aider à grandir, à mûrir, à être plus fort, à aider quelqu'un d'autre dans un combat similaire. Un peu comme l'enfant qui, une fois grandi et qui a lui-même ses propres enfants, peut regarder en arrière et être reconnaissant pour des parents qui lui ont dit non, on refuse. Non, là, maintenant, t'es puni. Qui, le jour où ils entendent ces mots de leurs parents, ne sont pas heureux, ne sont pas contents, ne comprennent pas, ne sont certainement pas reconnaissants. Mais maintenant qu'ils ont des enfants eux-mêmes, peuvent regarder en arrière et dire, en fin de compte, ouais. Parce que maintenant, je fais pareil parce qu'ils avaient raison. Et je suis reconnaissant que j'ai eu ce témoignage, cet exemple que je peux suivre pour savoir comment être un bon parent envers mes enfants aujourd'hui et ne pas leur donner tout ce qu'ils veulent parce que ce ne sera pas bon pour eux. Le problème avec l'homme, c'est que nous confondons souvent le fait de rendre grâce pour toutes choses avec le fait d'être content pour les mauvaises choses qui nous arrivent. Ce n'est pas ce qu'il dit. Ce n'est pas du tout l'enseignement qui est donné ici. Je crois que ce que Dieu veut avant tout est de nous voir reconnaissants, de ne pas laisser l'épreuve, la peine et la difficulté enlever notre reconnaissance envers lui. Et non sincèrement être reconnaissant pour la chose qui nous apporte cette peine et cette douleur. Je donne un exemple. Je pense à mon père qui a eu un accident de voiture il y a des années de cela, ou à un autre conducteur ivre l'a percuté de face. Je ne pense pas que Dieu s'attende à ce que mon père ou sa famille soit reconnaissant pour l'accident lui-même. Ou qu'ils disent, ah Seigneur, merci, je me demandais quand est-ce que tu allais me permettre d'être percuté de face par un autre conducteur? Mais, je crois que ce qu'il nous enseigne, c'est que Dieu s'attend à ce que cet accident, les dangers, les questions sans réponse en attendant les opérations qu'il a dû suivre et subir après, etc., bah, que tout cela ne nous fasse pas questionner Dieu et encore moins enlever notre reconnaissance envers lui pour qui il est, pour ce qu'il a fait. Et même ce qu'il a permis, et encore moins d'être reconnaissant pour ce qu'il va faire. Ce n'est pas juste d'être reconnaissant avec les résultats et les soins apportés, mais de pouvoir continuer à être reconnaissant envers Dieu pour tous ses bienfaits, sa grâce et son amour. Le fait qu'il ait permis une chose désagréable à l'instant présent n'enlève pas toutes les bonnes choses qu'il a déjà fait pour nous dans le passé et pour toutes les bonnes choses qu'il veut encore faire avec et pour nous dans le futur. Et ça ne change certainement pas qui il est. Ce Dieu bon, juste, compatissant, plein d'amour, riche en bonté, lent à la colère, toujours prêt à pardonner, toujours prêt à offrir son salut, toujours prêt à réconcilier, etc., etc. Il ne demande pas à ce que je sois heureux, que mon père soit dans un lit d'hôpital qui va se faire opérer parce que un ivrogne lui a rentré dedans. Mais je peux être reconnaissant de savoir que Dieu est en contrôle, que Dieu n'est pas insensible, que Dieu va s'occuper, Dieu va faire ce qu'il y a de mieux pour lui. Ça ne veut pas dire qu'il m'a promis d'office qu'il sortira de cet hôpital. Mais je peux être reconnaissant que s'il n'y sort pas, je sais que mon père est sauvé, qu'il ira au ciel, que je le reverrai. Que la difficulté présente n'enlève pas me donne pas l'excuse de ne pas continuer à être reconnaissant pour qui Dieu est. Et je sais quand on dit cela, quand on dit que Dieu veut qu'on rende grâce en toutes choses, certains vont toujours prendre les situations extrêmes. Oh, tu veux que je sois reconnaissant du fait que mon enfant soit mort ou que j'ai perdu ma femme parce qu'elle m'a trompé ou mon mari ou autre situation extrême. Dieu ne demande pas qu'on soit reconnaissant pour ces choses, mais qu'en toutes choses, peu importe l'expérience qu'on traverse, qu'on n'arrête pas d'être reconnaissant envers Dieu. Ce sont deux choses extrêmement différentes. Parce que Dieu dit, on doit bien pleurer avec ceux qui pleurent, n'est-ce pas? On doit pleurer avec ceux qui pleurent. Il y a un temps pour tout. Il est évident qu'il ne dit pas qu'on doit être heureux, reconnaissant pour la difficulté qui nous arrive. Il y a un temps pour pleurer. Mais ce temps ne change pas ma gratitude et ma reconnaissance envers Dieu pour ses bienfaits envers moi. Mais de rendre grâce en toutes choses implique également qu'on soit reconnaissant pour toutes les choses que Dieu fait pour nous, qu'on ne voit pas non plus. De ne pas les prendre pour acquises non plus. On n'a vraiment aucune idée à quel point, si ce n'est rien d'autre, que Satan nous déteste. Tous, chrétiens comme inconvertis, nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Et rien que pour ça, il nous a en horreur. Lui a été chassé du ciel et le ciel nous est promis. Pas seulement promis, mais en plus, la Bible dit que pour nous chrétiens, on est héritiers avec Christ. Tout ce que lui aurait voulu avoir, elle nous est pratiquement accordée. Rien qu'en nous voyant, Satan nous déteste. On n'a aucune idée à quel point Satan veut nous faire du mal, chaque jour, jour après jour. Et on ajoute à cela notre propre chair, notre propre nature charnelle. On n'a aucune idée de toutes les choses que Dieu fait pour nous empêcher à ce que la volonté de Satan ne se fasse, que notre chair ne se réalise, et à tout ce qu'il fait pour nous protéger, bien souvent de nous-mêmes. Mais le fait de ne pas savoir, de connaître les détails, ne devrait pas nous empêcher de le remercier, d'être reconnaissant. Reconnaissant que Dieu n'attend pas qu'on soit dans une difficulté avant d'intervenir, mais que Dieu intervient bien plus souvent qu'on ne le réalise pour nous protéger, pour pourvoir, pour aider, pour soutenir, pour encourager, pour guider. Rendre grâce pour toute chose veut bien dire ce que cela implique. Nous n'avons pas besoin que Dieu réponde à nos prières selon nos envies, et nous n'avons pas besoin de savoir tout ce que Dieu a fait pour nous pour qu'on soit reconnaissant. En Éphésiens chapitre 1er, à la fin du verset 3 et 4, il dit: Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irréprochables devant lui. Augustine dit que les chrétiens des premiers siècles avaient l'habitude de se quitter en disant tout. Ceci, traduit simplement, des gloires à Dieu. Je dis, bon, d'accord, c'est bien, mais il faut comprendre. J'ai dit, les chrétiens du premier siècle, il faut savoir que la grande majorité des conversations que ces chrétiens avaient entre eux étaient autour du thème de la persécution qu'ils subissaient. Ils parlaient de tel ou un tel qui est mort. Il a été mis à mort. Tel ou un tel est emprisonné. Tel ou un tel a ceci arrivé. Et etc. La grande majorité de leurs conversations étaient autour de la persécution qu'ils subissaient. Mais ils insistaient à ne pas se quitter sans se dire les uns aux autres, gloire à Dieu. Tel un tel est mort, tel un tel est emprisonné, on a dû changer de place, la maison de tel un tel était saccagée, on ne peut plus y retourner, etc. Gloire à Dieu. C'était leur façon de dire. Ne cessons pas d'être reconnaissants. Continuons, persévérons. On ne peut pas avoir de reconnaissance sans obéissance. Et on ne va pas obéir si on n'est pas reconnaissant. Colossiens 3,15 nous dit: Et que la paix de Christ, à laquelle vous êtes appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Un peu comme rattaché. Mais ce n'est pas c'est pas dissocié. Si on veut avoir la paix de Christ, régner dans nos cœurs, ben soyez reconnaissants. Psaume 68, verset 20 et 21, béni soit le Seigneur. Chaque jour quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Et je prie que chacun d'entre nous puissions continuellement compter les bienfaits de Dieu dans notre vie, jour après jour, peu importe ce par quoi nous passons pendant cette journée. Alors permettez-moi de juste vous retirer un peu les strophes que vous avez chantées avec moi tout à l'heure de ce chant. La première strophe nous dit que nous avons chanté, dit quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. C'est facile à chanter, mais nous devrions grandir en maturité pour pouvoir le vivre également régulièrement. La deuxième strophe que nous avons chantée ensemble dit quand sur la route glissante, donc fait allusion au moment où nous sommes un peu déstabilisés, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Et que Dieu est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Il t'aidera encore aujourd'hui. La troisième strophe que nous avons chantée ensemble dit, si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, ça parle de nos douleurs les plus intenses. Là, on en revient à cette illustration extrême qu'on utilise souvent. Ah, j'ai perdu, mon enfant est mort, ou mon mari ou ma femme est morte. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. C'est que pour un moment, notre vie terrestre, on le dit, on le répète, n'est qu'un souffle. Et si mes personnes qui me sont chères sont sauvées aussi, ben on n'est séparés que pendant un petit instant. On n'est séparés que pendant un petit souffle. Parce qu'on peut regarder vers le futur, on a cette promesse. J'ai la promesse de Dieu d'aller au ciel. J'ai la promesse que ma famille qui est sauvée est au ciel, j'ai la promesse d'être de nouveau avec eux. Et on peut être reconnaissant, même dans les moments, les douleurs les plus intenses, parce que cette vie sur terre, elle n'est rien, elle n'est absolument rien. C'est tout pour beaucoup d'entre nous, mais ce n'est pas le tout. C'est juste, qu'est-ce qu'elle est sur notre tombe? Un tiret. Date de naissance, date de mort, ce petit tiret représente notre vie entière. Et notre vie n'est qu'un petit tiret. Mais notre vie éternelle, c'est ça qui importe. Alors, peu importe ce par quoi on passe, on peut se rappeler que la vie éternelle nous est promise auprès de Dieu avec ceux qui ont fait ce même choix d'accepter Christ. Et on peut être, pas nécessairement se réjouir de la mort de notre enfant, mais être reconnaissant. C'est deux choses différentes. Reconnaissant, je vais le revoir. Et on a chanté ce refrain plusieurs fois ensemble. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Ne fais pas du problème la focalité de ton attention. Compte les bienfaits. Tu verras, en adorant, en étant reconnaissant, en louant le Seigneur pour ses bienfaits, combien le nombre en est grand. Parce que nous avons un Dieu qui est extrêmement grand, infini. Que le Seigneur nous aide à le chanter avec force, que le Seigneur nous aide à le chanter avec vérité et avec amour, et que le Seigneur nous aide surtout à le chanter avec sincérité. Prions, s'il vous plaît.